au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Et c'est la veille de Noël, on parle de Jésus. Personnage très important.
Oui, à l'origine de la plus importante religion du monde, le christianisme.
Voilà, et on est en 2017, pas pour rien.
Voilà, et on est juste avant la pause, on avait commencé à parler de ces reliques, hein, l'importance des reliques.
Oui.
Faut savoir, on reviendra pas là-dessus, mais il y a ces reliques par contact, donc un objet qui a appartenu au Christ, qui a été touché par le Christ et nimbé d'un aura, la virtus. Et
donc,
dès qu'il est mis en contact avec un autre objet, la virtus se passe d'un objet à l'autre, hein, c'est une sorte de contamination.
L'Église multipliait les reliques de cette manière-là. Et on n'a qu'à penser à l'autre Pâques, par exemple. Encore aujourd'hui, des gens qui vont chercher l'autre Pâques avant que le soleil se lève. Et étant donné que c'est le jour de Pâques, l'eau devient, elle aussi, virtueuse.
Voilà. Donc, de toutes ces reliques, bien sûr, on en retrouve un peu partout à travers les églises. Mais il y a une relique qui est à peu près unique. Et cette relique est probablement la plus importante de toute la chrétienté. En fait, si on essaie de trouver, parce que faut quand même se le dire, le milieu religieux, le Vatican, on n'est pas très chaud à l'idée des reliques du Christ, par exemple. On ne veut pas, et on le comprend, on ne veut pas que les gens adhèrent à la foi parce qu'ils ont une relique. Hein. L'idée de l'Église n'est pas de dire « Je crois en Jésus parce que j'ai le suaire de Turin ». On ne veut pas ça. D'où le fait qu'ils sont relativement... L'Église est réticente à faire dater les reliques ou à faire... On ne veut pas faire de plat avec les reliques parce que les reliques ne sont pas le chemin vers la foi. La foi est quelque chose qui s'éprouve et pas à travers des reliques. Mais quand même... Il ne faut pas se le cacher, on a tellement peu de preuves de l'existence de ce Jésus historique que d'avoir une relique qui prouverait hors de tout doute l'existence du personnage, lui donnerait une assise dans l'histoire, ce serait fabuleux. Et le suaire répond à cette demande-là. Bon, qu'est-ce que c'est que ce suaire? On en a souvent parlé. C'est la relique la plus célèbre. Bon, son histoire officielle est la suivante. Il apparaît à peu près aux alentours de 1350 à Liré, en France. On parle ici d'une pièce de lin qui fait à peu près 4,50 m de long sur 1,60 m à peu près de large, sur laquelle on voit, mais de façon très fantomatique, hein. C'est une pièce de lin blanc. Imaginons blanc un peu jauni avec la patine du temps. Et il y a comme une sorte d'image où on voit le côté dorsal et facial d'un homme qui est un peu plus jauni, comme un peu comme roussi sur le tissu. Et cette image-là, donc le suaire apparaît, cette grande pièce de tissu apparaît en 1350 à Liré, en France, ce qui est tout près de Paris. Et là, il est exhibé pour la première fois. On le présente comme étant l'authentique linceul du Christ. Et l'image qui apparaît serait due au fait que lorsque Jésus s'est ressuscité, son image serait apparue dans le tissu. Évidemment, ça ne fait pas forcément l'affaire de toutes les autorités, en particulier les autorités religieuses de la ville voisine de Troyes, qui vont écrire au pape. À l'époque, le pouvoir papal est divisé en deux. On a le pouvoir papal qui est à Rome, un autre qui est à Avignon. Donc, Pierre Darcy, par exemple, l'évêque de Troyes va écrire au pape Avignon en disant « Il faut absolument empêcher qu'on exhibe cette relique ». Et on comprend qu'il y a un intérêt pécunier derrière ça parce que les gens délaissent la commune de Troyes pour aller vers Liré où ils font leurs oboles pour voir le suaire, l'authentique linceul du Christ. Donc, si on déserte Troyes, on ne fait plus d'oboles. On comprend un peu la colère de Pierre Darcy. Et Pierre Darcy va même écrire au pape en disant « Mon prédécesseur, Henri de Poitiers, avait mené une enquête sur cette espèce de tissu et avait même retrouvé l'artiste peintre qui l'avait fabriqué. C'est une fraude. » On reviendra sur l'idée de la peinture, mais quoi qu'il en soit, ce Pierre Darcy, dans sa lettre adressée au pape, ne mentionne pas qui était le nom de cet artiste. Il fait cette déclaration sans aucune preuve.
Okay.
Quoi qu'il en soit, ce fameux suaire, il est exhibé donc à Liré. Et puis, éventuellement, en 1453, il va être vendu à la famille de Savoie, une famille... noble, entre guillemets, hein, et qui est installé dans le Piémont. Donc, ces gens-là, on collecte, c'est vrai, les familles nobles aiment avoir des reliques, et qui plus est, les reliques du Christ sont les reliques les plus importantes. Donc, ils vont s'approprier ce suaire de Turin, ils vont le garder en leur possession. Il y a une petite église, une chapelle communale, qui est placée à même les enceintes du château. On est à ce moment-là à Chambéry, en France, et voilà qu'il va se produire un événement tout à fait extraordinaire. En 1532, un incendie va ravager cette petite église de Chambéry où se trouve le suaire. Le suaire est gardé à ce moment-là dans un reliquaire en plomb et une goutte de plomb va tomber, le tissu est roulé, et une goutte de plomb du reliquaire va tomber sur le tissu et un peu comme les ribambelles d'enfants va traverser de part en part le tissu. Quelle catastrophe! On réussit à maîtriser l'incendie, on sauve le fameux reliquaire et lorsque l'on déplie le suaire, on voit que à quelques endroits, il était endommagé par cette goutte de plomb qui l'a traversé.
Oui.
Mais presque miraculeusement, la partie principale du suaire, le visage de l'homme, son corps, a été préservé.
Mais le visage de l'homme ne correspond pas nécessairement au visage dont on parlait plus tôt.
Et là, on arrive...
Avec les traits maghrébins.
Voilà, parce que là, on pourrait parler longuement, on pourrait faire une série complète uniquement sur le suaire de Turin. Mais éventuellement, ce suaire va passer de la famille de Savoie qui, éventuellement, va donner des têtes couronnées en Europe. Et le dernier propriétaire du suaire, on parle d'un propriétaire privé. Le roi Umberto II d'Italie va faire don en 1983 de la précieuse relique. Il va la donner au Vatican. À ce moment-là, le suaire est gardé depuis presque 250 ans dans la petite église de Saint-Jean-Baptiste de Turin. Et il est présenté à peu près une fois toutes les 20 ou 30 ans au public en général. Ce suaire-là, il a fait l'objet d'énormément de recherches. On a essayé d'analyser les pollens sur le suaire. Il semble qu'on ait des pollens qui viennent du Moyen-Orient. L'image, on sait maintenant que l'image n'est pas peinte sur le suaire. Donc, quand Pierre Darcy dit « mon prédécesseur a trouvé l'artiste peint », c'est la foutaise. L'image n'est pas peinte sur le suaire. Est-ce que c'est autre chose? Attention, je ne dis pas qu'elle est authentique, mais c'est une relique extraordinaire. On ne connaît pas d'autres reliques qui ressemblent à ça. On ne connaît pas la technique utilisée par le faussaire, s'il s'agit bel et bien d'un faussaire. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'image est beaucoup plus visible en format négatif. Donc, on va le découvrir, en fait, à la fin du 19e siècle. Segundo Pia va prendre des photographies de cette relique et, dans son laboratoire, en développant les plaques, soudainement, il voit le suaire comme jamais personne avant lui ne l'a vu. Les traits de cet homme crucifié, des marques, il a des trous dans les poignets, dans les cheveux, dans les pieds, la marque sur le côté, le front qui est marqué par le port de la couronne d'épines. Et cet homme qui le regarde, Segundo Pia, est frappé. Hein, quelle image forte de cet homme. Le problème, c'est que le suaire, au-delà du débat, est-ce que c'est un tissu qui a été fabriqué au 1er siècle? Est-ce que le sang est du vrai sang? Est-ce qu'il y a des pollens? C'est vrai que l'image de l'homme du suaire ne correspond pas à l'image d'un juif du 1er siècle. Les traits, le visage, le faciès ne correspond pas à l'image d'un juif du 1er siècle qui aurait vécu en Galilée ou en Judée. Donc, on a déjà un petit problème ici. Mais en revanche, il y a des choses qui sont extraordinaires à propos du suaire. Le fait qu'on n'arrive pas à comprendre comment il a été fait, quels sont les mécanismes utilisés. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, des sceptiques, par exemple, qui disent « Ah oui, mais il y a des sceptiques qui ont montré que ça avait été fait avec de l'ocre rouge. » Je pas dans les détails, mais ça, c'est de la foutaise. C'est de la poudre aux yeux. Le suaire a été fait, on n'a pas tapoté avec une petite éponge pour mettre de l'ocre rouge dessus. Et j'ai vu, moi, le suaire. Je l'ai eu devant les yeux. Il y a des choses qui sont intéressantes à propos du suaire. Il faut se rappeler que l'imagerie populaire au Moyen-Âge était que Jésus avait été crucifié dans les mains et dans les pieds. L'homme du suaire présente des plaies au poignet. Donc, c'est quand même curieux. Si moi, j'étais un faussaire au Moyen-Âge et j'aurais voulu faire une fraude, j'aurais mis les marques de clous dans les mains, pas dans les poignets. D'ailleurs, beaucoup de gens s'étaient exprimés au Moyen-Âge, à la Renaissance, en disant « C'est curieux, tout le monde sait que Jésus était crucifié dans les mains et l'homme du suaire est crucifié dans les poignets. » Or, aujourd'hui, on sait que lorsqu'il y avait mise à mort en crucifixion, les Romains plaçaient le clou dans le poignet, dans un espace qu'on appelle l'espace de Desto, qui donnait une meilleure prise sur la croix. Or, l'homme du suaire a des trous dans les poignets. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que le suaire est authentique. Je me garde bien de dire ça.
Mais quand même, c'est fascinant.
Il y a quand même des choses qui sont fascinantes. Le coup de grâce à propos du suaire arrive en fait en 1988. Pour la première fois, l'Église va autoriser une datation au carbone 14, ce qui n'a jamais été fait. Donc, on analyse au carbone 14 une partie du suaire, un petit morceau pris sur le pourtour du suaire. Et l'analyse va démontrer que cet objet aurait été fabriqué entre 1250 et 1380 à peu près. Donc, une fourchette d'à peu près un siècle et on le situe là.
Donc, ça vient éliminer...
Pas tout à fait. Non. Parce que même, et là, je le dis de la part même de ceux qui ont... Parce que l'analyse au carbone 14 a été fait conjointement par trois universités. Donc, l'université de Cambridge en Angleterre, qui était le responsable des analyses également. Il y a l'École polytechnique de Zurich en Suisse qui ont fait les analyses. Et un troisième laboratoire à Tucson en Arizona. Donc, ce sont ces trois laboratoires qui ont procédé à une analyse en double aveugle de l'échantillon du sphère de Turin. Et les trois arrivent à peu près à cette même datation. Le problème, et j'ai rencontré Christopher Ramsey, qui était le responsable des analyses pour l'Université de Cambridge, et de ses aveux même, il dit, cette analyse-là, elle est un peu douteuse.
Okay.
Pour la simple et bonne raison que lorsque l'on a nettoyé le tissu avant de le soumettre à l'analyse au carbone 14, on croyait avoir bien nettoyé les fibres du tissu. Or, on sait aujourd'hui qu'il existe une espèce de champignon qui s'appelle le Nicotellinia varnish, un nom un peu semblable à ça, assez compliqué à prononcer,
oui.
Mais qui forme un peu une sorte de gaine autour des fibres du tissu qui, lui, résistait aux techniques de nettoyage de l'époque et qui a pu fausser un peu la datation au carbone 14. Ramsey se garde, bien
mais
sûr...
Mais pourquoi on ne referait pas une autre analyse?
Parce que l'Église ne veut pas. Hein. Le sphère de Turin, ils l'ont fait une fois, mais ils ont dit merci, bonsoir. Et en même temps, est-ce que le sphère résiste? Parce que grâce au fait que cette analyse-là soit devenue controversée, on peut dire que le sphère est revenu à la vie, tu comprends-tu?
Oui, c'est-à-dire
le miracle demeure. Et est-ce que le sphère résisterait à une deuxième mort? Pas certain. Quoi qu'il en soit, Ramsey reste très prudent en disant, écoutez, cette analyse au carbone 14 nous semble un peu discutable. On est prêt à ouvrir la fourchette. C'est-à-dire que, entre dire 1250, 1380, là, peut-être qu'on pourrait aller deux siècles en avant, les deux siècles en amont. Mais est-ce qu'on serait prêt à faire un écart de 12 siècles? Ça, Christopher Ramsey se refuse de l'admettre. Mais quoi qu'il en soit, cette analyse au carbone 14 reste très controversée. Et pour l'instant, cette image de l'homme du sphère, elle est forte et elle constitue, évidemment, comme on ne sait pas comment l'image s'est faite, et comme elle représente des détails anatomiques qui sont très particuliers, on comprend que les gens sont fascinés par le sphère de Turin. Aujourd'hui, on le montre plus ouvertement, de façon un peu plus soutenue, parce qu'à l'époque, on l'exhibait toutes les 20 ou 30 ans à peu près, à chaque génération, et on le tenait par le côté parce qu'il y avait une manipulation de la relique. Maintenant, elle est gardée dans une espèce de réfrigérateur, en fait un reliquaire réfrigéré, où on a simplement à basculer la table avec sa vitre, et les gens peuvent voir le sphère. Donc, comme son exposition est beaucoup plus facile, on procède à des expositions du sphère de manière plus soutenue. Mais c'est une relique qui est extraordinaire et on comprend son importance parce que si éventuellement on devait démontrer que le sphère de Turin, il est authentique, ce qui n'a pas encore été fait et ce qui est loin d'être fait. Personnellement, moi, j'aurais tendance à favoriser une fraude, même si on ne connaît pas les mécanismes. Mais quoi qu'il en soit, si on devait démontrer l'authenticité du sphère, ce serait une preuve historique de l'historicité du personnage de Jésus de Nazareth.
Christian, tout ça est fascinant.
Oui, absolument.
Et on poursuit dans la fascination parce qu'on demeure dans les artefacts après la pause. On va revenir sur le voile, également sur... on va parler du Saint Graal, la Sainte Lance.
Oui.
Et on se retrouve dans deux minutes.